Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Même quand il n'a plus de réseau, votre iPhone peut en retrouver. Depuis quelques années, les iPhones récents bénéficient d'une connexion satellitaire qui peut vous tirer d'affaire dans une zone blanche. C'est une super fonction, sauf qu'Apple ne saurait plus trop comment la faire évoluer. Quelle est la bonne trajectoire à suivre pour les ambitions satellitaires d'Apple ? On va en discuter avec Christophe. Au programme de cette émission également, WhatsApp dispose enfin d'une application pour iPad, Donald Trump tourne le dos à Tim Cook et Siri retarde un tout nouveau produit. Nous sommes le jeudi 29 mai, voici les infos des derniers jours qu'il ne fallait pas manquer. Si vous nous écoutez chaque semaine, vous l'avez remarqué, ce nouvel épisode de Sortie de Veille est disponible dès jeudi et non samedi. On va exceptionnellement faire le pont vendredi, alors voilà, on enregistre en avance. Salut Christophe, tu vas bien ?
Salut Stéphane, oui ça va très bien et toi ?
Ça va bien, ouais. Alors comme ça, c'est déjà le week-end ?
Oui, mais je crois que dans ton sommaire, tu as oublié une nouvelle très importante, peut-être la plus importante.
Ouais.
La famille de Mac Génération vient de s'agrandir. Cédric, notre développeur, vient d'être papa pour la deuxième fois. Donc on embrasse toute la famille et qu'ils en profitent avant que... qu'il rentre dans le dur quand tout ce petit monde rentrera à la maison.
Ouais, félicitations à Cédric et à toute la famille, ouais. On est très heureux pour eux. Alors on va passer sans transition au gros sujet de la semaine. Ce sujet, c'est le projet d'Apple dans l'espace qui est en train de dériver. Je l'ai dit en introduction, depuis les iPhone 14, Apple offre une connexion satellitaire qui sert de moyen de communication de secours dans les zones blanches de plusieurs pays. Alors cette connexion devait être gratuite pendant seulement un an au départ, mais elle a finalement été prolongée. Selon The Information, qui a publié une longue enquête sur le sujet, Apple ne saurait plus trop dans quelle direction guider ce projet en fait. Alors actuellement, Apple utilise le réseau de satellites de Globalstar, qu'elle a financé à hauteur de 2 milliards de dollars environ. Mais Elon Musk fait pression pour qu'Apple utilise son réseau de satellites à lui, Starlink. En interne, à Cupertino, il y aurait beaucoup de doutes sur la voie à suivre. On pensait notamment qu'Apple continuait d'offrir la connexion satellitaire pour le bien de ses clients, pour ne pas qu'ils se retrouvent sans connexion dans une situation de détresse, mais ce n'est apparemment pas la seule raison.
Oui, alors cette histoire est vraiment très intéressante. Alors, pour faire simple et comme on dit en langage Facebook, Tim Cook et Elon Musk, c'est compliqué.
C'est compliqué.
Apple et les opérateurs, c'est aussi très compliqué. Ceci dit, comme je l'ai déjà dit, les bases de ce service, Apple est contrainte de les offrir. C'est comme si on faisait payer 215, c'est pas très raisonnable. L'autre raison, comme tu dis, elle est réglementaire. Si Apple faisait payer un abonnement pour ses services satellites, elle pourrait se voir accorder le statut d'opérateur, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour elle d'un point de vue de la vie privée. Un tel statut contraint les opérateurs américains de pouvoir partager les communications en cas de demande des forces de l'ordre et donc d'ouvrir par conséquent e-message. On a appris que le service tel qu'Apple le propose lui coûte quelques centaines de millions de dollars par an. Alors, l'autre révélation, comme tu disais plus tôt, c'est qu'on a pu découvrir l'art du deal selon Elon Musk. Pour promouvoir son service, il proposait de le réserver aux iPhones pendant 18 mois contre la coquette somme de 5 milliards de dollars. Le service aurait été ensuite facturé 1 milliard de dollars par an. Pour ce deal, donc à quelques milliards de dollars par an, Elon Musk aurait donné à Apple 72 heures pour se décider. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Elon Musk négocie de manière assez particulière, car il aime bien manier la carotte et le bâton, car il menaçait de présenter lui-même une fonction similaire compatible avec des iPhones, chose qu'il a faite lors de l'annonce du partenariat entre T-Mobile et Starlink. En faisant alliance avec Globalstar, Apple a sans doute choisi l'option de la sécurité qui présente l'avantage de ne pas avoir Elon Musk comme partenaire. Je ne suis pas certain qu'Apple est habitué à se faire dicter les règles lorsqu'elle traite avec d'autres entreprises. Bon, en attendant, je suis curieux de voir la prochaine Apple Watch Ultra. Qui devrait prendre en charge cette fonctionnalité ? Enfin, si la rumeur dit vrai.
Ouais, et puis finalement, Starlink a quand même trouvé sa place dans les iPhones, puisque la fonction Direct to Cell, donc en fait c'est un partenariat entre les opérateurs et Starlink, qui permet d'utiliser le réseau satellitaire de Starlink. Et cette fonction-là est maintenant déployée dans certains pays avec des opérateurs partenaires et sur les iPhones jusqu'aux iPhone 13. Alors oui. Que la fonction de satellite autonome, entre guillemets, d'Apple est réservée aux iPhone 14 minimum.
Au final, cela fait plus de choix pour les utilisateurs. C'est vrai que l'avantage de la solution d'Elon Musk, c'est qu'elle est techniquement plus performante. Non, c'est vrai qu'Apple est un petit peu dans une drôle de situation. Après, voilà, comment aller plus loin, ça c'est une vraie question, parce que bon, le plus important est quand même de pouvoir émettre des messages d'alerte. Après, voilà, enfin, on pourrait aussi imaginer que l'utilisation de ce type de solution est quand même relativement exceptionnelle. Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'Apple crée, entre guillemets, une messagerie un peu tierce qui serait moins sécurisée? Mais ça pourrait aussi se comprendre.
Hein. C'est un peu la question qui se posait selon l'article. C'était, est-ce qu'il fallait remplacer les satellites de Globalstar par des satellites plus modernes pour proposer, par exemple, de la data avec la connexion satellitaire, ou bien se contenter de la fonction de secours, quoi. Et là, apparemment, c'est pas trop tranché encore chez Apple. On va passer à l'événement de la semaine. C'est l'arrivée de l'application WhatsApp sur iPad. Alors, on savait que Meta bossait dessus, car elle était en bêta depuis de nombreux mois, mais on n'osait plus trop l'espérer. Et la voilà, enfin! Alors, l'application est très classique, hein. On a la liste des conversations à gauche et le contenu des discussions à droite. Les fonctions audio et vidéo sont bien présentes. Je me demande bien pourquoi il a fallu autant de temps pour la réaliser, mais bon, mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. Mais il y a toujours une app de Meta qui se fait attendre sur iPad. C'est bien sûr Instagram. Selon toi, ça va arriver quand, Instagram sur iPad ?
Non, mais c'est le 1er avril ou bien ? Je pensais pas que c'était férié pourtant. Non, mais quand on voit les millions, les milliards que Facebook dépense sur lobbying, on se dit qu'elle pourrait économiser un peu d'argent pour améliorer la prise en charge de ses services sur iPadOS, macOS et quelques autres plateformes. Il y a longtemps eu des bugs très gênants avec le copier-coller, notamment sur la version Mac de WhatsApp. Alors, j'ai pas encore eu bien le temps de tester cette version iPadOS, mais comme tu le dis, c'est très similaire à ce que l'on connaît déjà. L'appairage de l'iPad à un compte nécessite juste de scanner un QR code. Mais la situation est assez paradoxale. Il y a des applications qui font l'effort d'être sur toutes les plateformes. Le fait d'arriver lentement sur des plateformes, entre parenthèses, moyennes, n'a jamais empêché WhatsApp de dominer le marché de la messagerie instantanée. Alors voilà comme une statistique, je pense que assez étonnante. WhatsApp, en 2025, c'est environ 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. 3 milliards. Quand je dis que la généralisation du RCS arrive tardivement. Alors, je suis pas un grand fan de Zuckerberg, mais en plus, WhatsApp est quand même une application propre, hein. Elle n'est pas forcément très très jolie, mais elle est très propre, hein. À ceux qui en doutent, je vous invite à la comparer avec Skype, qui a tiré sa révérence il y a quelques mois, et dans laquelle il y avait notamment beaucoup de publicité pour les autres services de Microsoft.
Même s'il y a quand même de plus en plus dans WhatsApp des petits trucs dont tu n'as pas forcément besoin ou envie dans une messagerie. Je pense aux espèce de statut que les personnalités publiques peuvent envoyer. Et puis, tu as aussi Meta AI, l'IA de Meta que tu ne peux pas désactiver. Tu as de plus en plus de choses comme ça qui viennent un peu alourdir l'interface de WhatsApp.
Ça, c'est vrai, notamment pour leur service d'intelligence artificielle. Alors, ça pourrait être intéressant, mais le problème, c'est qu'ils l'ont surtout intégré. Tu n'as pas l'impression qu'ils ont de la suite dans les idées. Enfin, à la limite, ils pourraient... Même si j'ai lu qu'il y avait des nouveautés plutôt intéressantes dans les tuyaux, mais là ils l'ont fait. Enfin voilà, c'est comme si Apple voulait imposer Siri, quoi.
Oui, c'est pas très intéressant pour l'instant.
Sinon, alors, Instagram sur iPad. Alors, le feuilleton, il dure depuis combien d'années déjà ? Moi, j'ai fait des recherches. Moi, je suis remonté jusqu'en 2020, mais je pense que c'est beaucoup plus ancien que ça. Alors, à la base, où Instagram était surtout un réseau social de photos, l'iPad semblait plus prédestiné que l'iPhone à la base. Mais au début, je me souviens qu'un tel portage posait des questions, entre autres, de bande passante. Mais c'était avant que Instagram se fasse racheter par Facebook. Ceci dit, on a appris le mois dernier qu'Instagram sur iPad, c'était du sérieux. Et que cela allait arriver assez vite. Pourquoi ? Parce que Meta a une peur bleue de TikTok.
Ah oui, c'est une bonne raison, ouais, pour avancer Instagram sur plus de plateformes. Ouais. On va passer à un autre sujet. Les relations entre Apple et la Maison Blanche sont en train de se gâter. Pour rappel, Tim Cook avait réussi à obtenir une exemption des droits de douane pour les iPhones au plus fort des tensions avec la Chine. Mi-avril, Donald Trump avait déclaré lui-même avoir voulu aider Tim Cook. Mais voilà, un mois plus tard, le président américain est fâché avec le patron d'Apple. Alors d'une part, Donald Trump n'apprécie pas qu'Apple importe ses iPhones d'Inde plutôt que de Chine pour éviter des surtaxes. Et d'autre part, Donald Trump a apparemment très mal pris que Tim Cook refuse de l'accompagner lors de son déplacement officiel au Moyen-Orient. Et cette brouille pourrait coûter cher à Apple car Trump menace maintenant d'imposer une taxe d'au moins 25% sur tous les produits Apple. Est-ce que Tim Cook n'est pas finalement pris au piège par Donald Trump ?
Alors, quand on voit l'évolution des rapports entre Trump et les autres grands de ce monde, je ne suis pas certain qu'il soit possible d'avoir une relation stable avec lui. À part si on se soumet totalement, et encore, j'ai un doute. J'ai envie de dire que de ce point de vue, c'est plutôt rassurant pour Apple. Cela montre que Tim Cook n'est pas prêt à tout pour s'attirer les faveurs de Donald Trump. Si Tim Cook a joué le jeu lors de l'investiture de Trump dans le but notamment de changer les choses en Europe, il a également envoyé des signaux montrant qu'il n'était pas question non plus de se laisser faire. Contrairement à bon nombre de big tech, Apple n'a pas arrêté son programme DEI. Alors DEI, c'est pour diversité, équité, et inclusion. Lors de la publication de ses résultats trimestriels, Apple n'a pas manqué de louer ses progrès sur le plan environnemental. Alors ça avait surpris parce que mettre ça entre le chiffre d'affaires et le bénéfice, c'est pas quelque chose qui est dans la culture des résultats financiers. Et puis, les annonces faites sur les investissements d'Apple à venir aux États-Unis, c'était très ronflant, il y avait de gros chiffres, mais il n'y avait pas beaucoup de nouveautés par rapport à ce qui avait déjà été annoncé. De toute façon, plus on avance, plus on voit de toute manière le nœud du problème. Donald Trump l'a dit, il veut qu'Apple produise ses iPhones aux États-Unis, et Apple s'y refuse pour le moment. Alors on est parti pour un bras de fer qui, au final, pourrait être tôt ou tard arbitré par les consommateurs, soit en s'orientant vers d'autres produits moins chers, soit avec leur bulletin de vote. Alors en attendant, la solution sans doute pour Apple sera de refaire le coup du Mac Pro avec un autre produit pour tenter de satisfaire Trump, ou d'énoncer un plan assez vague à moyen terme. Mais ça va être un feuilleton ces histoires de « on est copain, on n'est pas copain ». On n'est plus copains, j'ai hâte de voir le premier coup de froid entre Musk et Trump, par exemple. Le patron de Tesla, à ce petit jeu, joue beaucoup plus gros que celui d'Apple.
D'ailleurs, Musk a quitté le Doge cette semaine, donc il n'occupe plus de fonctions politiques, a priori. Ouais. On termine le tour de l'actu avec une rumeur concernant Siri. Si vous suivez les rumeurs, vous devez savoir qu'Apple prépare des écrans connectés pour la maison, des écrans similaires à ceux d'Amazon ou de Google. Alors, Mark Gurman avait indiqué au départ qu'un de ces écrans était prévu pour le début de l'année, mais force est de constater qu'il n'est pas arrivé. Le journaliste de Bloomberg met ce retard sur le compte de Siri, qui a lui-même pris du retard. L'assistant devait gagner en intelligence, mais ses nouvelles capacités ont été repoussées de plusieurs mois. L'écran connecté attend donc que Siri soit plus malin, car ce serait son principal mode d'interaction. Est-ce qu'il y a eu déjà d'autres produits Apple retardés à cause de logiciels pas prêts, Christophe ?
Alors pour répondre à tes questions, j'ai envie de te dire que Siri n'en est pas à son premier coup d'essai. Le premier HomePod était arrivé quelques semaines en retard et avait loupé les fêtes de fin d'année à cause de problèmes logiciels.
Ah oui.
Puis, il y a les produits qui ont été annoncés et qui ne sont jamais arrivés. Alors là, on pense évidemment tous à AirPower. Puis, il y a les produits qui arrivent en temps et en heure, mais amputés de deux ou trois fonctionnalités. C'est arrivé très souvent sur les nouveaux iPhones. Puis, il y a les produits qui étaient prêts et qui n'ont jamais été commercialisés. Apple s'était mis en tête d'ouvrir un service d'accès à Internet pour l'iMac avant d'annuler ses plans la veille d'un keynote. Mais c'est certain que le retard d'Apple dans l'intelligence artificielle est préjudiciable. Ce que l'on voit avec les outils actuels comme ChatGPT, ce n'est que le début. Ce qui a fait le succès d'Apple ces dernières années, j'ai envie de dire ces dernières décennies, c'est de maîtriser le logiciel et le matériel, puis les services sont entrés dans cette équation. Pour les produits et services de demain, la maîtrise de l'intelligence artificielle est indispensable. Apple n'a pas réussi à mener à bien son projet d'automobile, c'est sans doute un problème d'intelligence artificielle. Dans tous les projets, dans les cartons d'Apple, la gestion de l'IA est un élément clé. Des lunettes sans intelligence artificielle, c'est juste impensable. Même chose pour l'écran connecté dont tu parlais, ou le bras robotisé qui est en cours de gestation. Et je ne parle pas des services comme le coach santé qui est dans les cartons depuis une éternité et qu'on nous promet pour l'année prochaine. Alors, à une époque, Apple était en grande difficulté car l'architecture de macOS était obsolète par rapport à la concurrence. Alors, on connaît tous la suite de l'histoire. Cela avait débouché sur le rachat de Next. Le gros danger d'Apple serait qu'elle se retrouve dans une situation similaire 30 ans plus tard.
Eh ben, on espère que ça va pas se produire quand même.
Oui, ou que tôt ou tard, peut-être, il faudra qu'Apple fasse un gros chèque pour acquérir...
Anthropique, par hasard.
Voilà. Là, c'est le, mais les valorisations, ça sera beaucoup plus cher que Next, hein, qui avait été racheté pour...
Ah oui.
Hein, pour une bouchée de pain, quand on compare les montants actuels.
Ce ne serait pas les mêmes prix, c'est sûr. Eh bien, écoute, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bonne fin de semaine.
Bon week-end à tous.
Bon week-end, si vous avez la chance de faire le pont vendredi. Sinon, on vous souhaite bon courage, on pense à vous. Et puis, à la semaine prochaine pour un prochain numéro de Sortie de Veille. Salut à tous.